La mer c'est dégueulasse, les poissons dedans, dès que le vent soufflera, je repartirai.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur l'Escale, le podcast du webzine sandbaver.fr. Je suis Paul Brief et je serai votre capitaine pour cette expédition musicale. Si vous ne connaissez pas l'Escale, nous partons en croisière avec 4 albums pour illustrer un thème et celui du jour semble bien antinomique à un podcast musical, le silence. De prime abord, on peut penser le silence comme le némésis de la musique et pourtant, c'est bien le silence, plus ou moins important, entre chaque note qui les articule et donne sens au morceau que nous entendons. Mais en sortant de l'aspect théorique, à l'échelle de la perception humaine, nous recevons bien plus la musique comme une exaltation sensorielle qui semble opposée à la retraite silencieuse. Bref, nous avons là un thème qui sera très intéressant d'aborder selon l'interprétation qu'en a fait les 4 membres de l'équipage du jour que je vais vous présenter dès maintenant. Vous pouvez le retrouver dans toutes les salles du Nord en train de pogoter. Il faut dire qu'avec silence, il y a de quoi faire pour la bagarre, c'est Thomas alias Azukero.
Ah pardon, ça a commencé là ? Ça enregistre ?
Oui, oui. Ah, t'as appuyé sur d'accord. Le bouton ?
Ah oui, c'est bon, oui, j'ai appuyé sur le bouton. Oui, bonjour, bonsoir, c'est moi, Azukero, l'homme qui bagarre silencieusement. Non, c'est faux, dès qu'il y a un morceau bien, je gueule comme un putois, comme tout le monde, évidemment, comme n'importe quel normie dans la fosse. Mais oui, voilà, ça va très bien. Bien content de vous retrouver pour un nouvel enregistrement de podcast.
Ah, formidable. Plaisir partagé, comme à chaque fois que tu es avec nous. Dans l'équipe, on le décrit souvent comme quelqu'un qui est un féru de riffs syncopés et lourds. C'est sans compter sur le fait qu'il est également fan d'ambiances très vaporeuses. C'est Cédric, alias Play to Die.
Bonjour. Alors oui, les ambiances vaporeuses, oui. Tu spoiles un petit peu, là.
Même pas, je pensais à ta chronique sur l'album de Vaporwave de l'artiste dont j'ai oublié le nom.
C'est vrai, 2814.
Voilà, c'est ça.
Ou au fait qu'il n'arrête pas de se plaindre qu'il fait 35 degrés chez lui et que du coup, il se transforme littéralement en vapeur. Ça peut marcher aussi.
Et surtout que vu qu'on a besoin de silence pour ce podcast, je ne peux pas faire tourner le ventilo. C'est toujours une joie. En tout cas, très content de vous retrouver ici.
Formidable. Quand j'ai cherché des synonymes pour silence, Internet m'a donné ta gueule. Alors, rien à voir avec Corentin alias Ekafis, mais il fallait que je le dise, c'était beaucoup trop drôle.
Ah, allô ? Allô ? Putain, mais ils sont pas là, c'est con. Allô ?
Si, on est là.
Ah oui, c'est bon. Oui, bonjour, bienvenue dans cette escale.
Oh, c'est dommage que tu aies raté cette présentation, hein, vraiment.
Ah oui. Mais tu me raconteras, hein. J'espère qu'elle était bien amenée.
On a chanté tes louanges.
Tu verras avec l'épisode. Et rien à voir avec ton amour pour Earthless et notre rédacteur en chef. Hein.
C'est une autre histoire pour une autre fois.
Complètement. Et pour finir, depuis son arrivée dans l'équipe, il n'a jamais été atteint de mutisme pour nos escales. C'est Léo.
Et coucou, oui, c'est encore moi. Je viens hanter vos escales depuis bientôt 2 ans. Mais écoutez, ça va très bien et je suis toujours très content d'enregistrer avec vous.
Plaisir plus que partagé, et chers auditeurs et auditrices, avant de commencer l'épisode, je tenais à vous rappeler que vous pouvez retrouver donc cet épisode ainsi que tous les précédents sur toutes vos plateformes de streaming habituelles, mais également sur le site sandbaver.fr où vous pourrez retrouver tout notre travail. Mais bon, trêve de publicité, je vous laisse tranquillement avec le début de notre épisode, avec cette première chronique sur le silence présentée par Cédric.
Et merci Paul. Et donc le silence, en parler, ça va pas être si simple, puisque en vrai c'est quelque chose que j'évite. En dehors du sommeil, j'ai toujours de la musique ou des vidéos en fond qui tournent, pour me distraire les oreilles. Je n'aime pas vraiment avoir des moments de vide, seul avec le fond sonore de la ville. Mais bien souvent, j'ai quand même besoin de trouver du calme dans ma tête, de faire le vide, de trouver mon silence intérieur. Et pour ça, rien n'est aussi efficace que l'album Forward Escape de l'artiste Tipper, qui s'écrit avec 2 P. Pour présenter rapidement, le producteur anglais se spécialise dans la musique électronique et compose depuis 1997. Si je devais le placer dans une case, j'hésiterais entre la glitch et l'IDM, souvent assez énergique avec des kicks bien entraînants. Le tout est instrumental, les paroles ne faisant pas partie de son vocabulaire. Pour s'en rendre compte, je vous invite chaudement à regarder les vidéos de ses concerts à l'amphithéâtre des Red Rocks avec ses sublimes visuels. Mais en 2014, il nous a offert ce qui est sûrement son opus le plus calme et contemplatif, le fameux Forward Escape. Il dure un peu moins d'une heure et c'est The Algorithm que je dois remercier pour cette découverte, lui qui l'avait partagé sur Facebook. Et l'album qu'il a partagé il y a maintenant presque 10 ans, c'est un havre de paix. Un refuge où je me retire quand j'ai besoin de silence au sens figuré. Après, Tipper, c'est particulier et pas forcément facile à expliquer car il a un son vraiment bien à lui. L'analogie qui va suivre est limitée, mais je dirais que là où beaucoup d'artistes électro donnent l'impression de composer avec plusieurs pistes linéaires et construites, le rendu de Tipper fait davantage penser à un patchwork de samples, bruitages et instruments qui, lorsqu'ils passent sous la MAO de l'anglais, deviennent un ensemble organisé. Prenez donc la superbe pochette de l'album. C'est comme si la myriade d'éléments de la toile d'Andrew Jones, nommée Laser Eyes, était manipulée par l'anglais pour nous offrir un dessin cohérent qu'un enfant pourrait déchiffrer. Maintenant, au tour des titres. Et là, on entre dans le domaine du contradictoire. Je m'explique. À plusieurs moments, vous allez peut-être avoir la sensation que les titres sont surchargés. Il arrive que des samples et bruitages partent dans tous les sens, chacun différent du précédent et à un autre endroit du spectre sonore. En plus, les instruments et samples sont souvent difficilement identifiables à quelque chose que vous avez déjà entendu. Il y en a même beaucoup auxquels on ne peut pas non plus coller les adjectifs de doux, calme ou apaisant. Et pourtant. Pourtant, Forward Escape m'emmène sur une île où aucun bateau ne peut m'atteindre ni accoster. Malgré la boîte à rythme plutôt incisive, les titres offrent pour la plupart de moelleuses nappes de synthé et d'ambiance sur lesquelles je peux me poser en laissant mes trackers au loin. Car ce que je n'ai pas encore avoué, c'est que je suis quelqu'un qui a tendance à beaucoup trop réfléchir et surréanalyser chaque élément que je rencontre. D'une certaine façon, je pense que les morceaux de l'album font basculer mon attention sur tout ce qui s'y passe, me laissant ainsi atteindre un état où je fais silence du monde qui m'entoure. Prenez par exemple Grabber's Holders, un des titres les plus généreux avec le nombre d'inserts. Il me fait un bien fou lorsque je l'écoute. Et ce n'est rien à côté du titre le plus long de l'album qui est aussi celui que je préfère. Ripcord est à mon sens un chef-d'œuvre et ce rien que par la mélodie de sa première moitié. Il s'exprime une sorte de tristesse mais dont on a tiré les leçons et nous a ainsi fait avancer. Une tristesse donc, mais sans regret ni remords, et qui au final nous a bénéficié, la conclusion se terminant sur une note aussi douce que positive. Une pépite bien cachée qui mériterait peut-être une prise un jour. Ripcord est d'ailleurs un titre qui mériterait de conclure sur une superbe note Forward Escape. À la place, c'est Reverse Dross Maneuver qui le fait. Attention, le morceau reste sympathique, hein, et dans le calme caractéristique du disque, mais une place au milieu de l'album lui aurait sûrement bien mieux convenu. Pour revenir à une vue plus globale de l'album, sa première moitié est à mon sens très lumineuse, comme éclairée. Dreamsters en est le meilleur exemple à mon sens. Cela se poursuit jusqu'à The Bed Ruggling, piste anxiogène où on a l'impression de se balader dans un éther pas forcément hospitalier. L'impression se poursuit d'ailleurs avec Life Raft for a Death Trip. Le dernier quart du disque nous ramène quant à lui aux sensations de la première moitié de l'album, où on retrouve le calme et la sérénité qui s'étaient un peu effacés jusque-là. L'album, en fait, abonde perpétuellement de distractions sonores, mais toujours contrebalancé par un fond me plongeant dans un calme olympien, quelles que soient les circonstances. Tout semble couler. Les titres charrient une cascade d'éléments. Ils pourraient entraver cette recherche du silence, mais bien au contraire, ils suivent tout le flow de l'album de façon logique. Je n'ai qu'à me laisser emporter par le calme courant et juste à apprécier tous ces petits fragments que je croiserai pendant le voyage. Dans son ensemble, Forward Escape me fait penser à un ciel bleu de milieu d'après-midi, clair et dégagé, où je suis seul dans un silence réconfortant. Une sorte d'oasis au milieu d'un monde qui ne me rassure pas toujours. Un lieu isolé que je vous invite à découvrir afin de trouver votre propre silence.
Merci beaucoup Cédric pour cette chronique et pour cet album qui personnellement m'a complètement sorti de ma zone de confort. Il faut dire que mes connaissances en musique électronique et mes pérégrinations dans ce genre, ça reste au grand genre de la house. Et puis les plus grands artistes électroniques ambiantes que j'ai beaucoup plus explorés. Je maîtrise ça beaucoup plus. Et donc tout ce qui est IDM et glitch, qui sont aussi des mots qui me sont venus à l'écoute de l'album, ça fait pas vraiment partie de mon vocabulaire musical. Et donc je me suis retrouvé assez perplexe par rapport à ton choix pour cette chronique. Parce que comme tu l'as développé dedans, l'album se retrouve avec un rendu assez surchargé en fait. Et donc combien même je trouvais cette proposition musicale très intéressante et entraînante, bah, j'avais à l'écoute trouvé ça assez surprenant par rapport au choix d'une chronique pour le silence. Et au final, un très très beau twist dans ta chronique sur le fait que c'est un album qui t'apporte un silence intérieur pendant l'écoute. Je pense que beaucoup de personnes qui écoutent de la musique avec un besoin presque primaire ont ce besoin de se couper un peu des choses et de se retrouver un peu dans leur bulle, dans leur univers. Et donc, je te remercie de nous avoir présenté un des tiens. Je voudrais avoir l'avis de Léo sur cette chronique et sur cet album. En plus, je t'ai jamais entendu parler de ce genre d'univers musical. Enfin, je crois que c'est le cas pour tous les autres chroniqueurs sur cette table. Je suis donc évidemment très très curieux. Donc, je t'en prie Léo, le micro est à toi.
Bah après, tu sais, on avait fait l'enregistrement sur l'amour et il y avait un album justement d'électro, un peu dans ce style-là. Je sais plus comment il s'appelait, mais qui était très cool.
C'était Plone de mémoire.
Ouais. C'était peut-être très cool. Mais sinon, moi, c'est vrai que la musique électronique, de base, c'est pas tellement ma came. Bon. Il y a quand même 2-3 albums qui me plairont, spoiler. mais voilà, c'est pas le genre vers lequel je vais le plus. Et moi, déjà, ce qui m'a marqué, comme t'en parlais, Paul, hein, c'est la pochette, que je trouve magnifique. Et j'ai vu la pochette, je me suis dit, putain, qu'est-ce que ça va être, ce bordel? Et c'est un peu ce qui s'est passé à l'écoute, c'est que j'étais un peu décontenancé. Il y avait des tonnes d'éléments de partout. Je savais pas trop comment m'attaquer à l'album. Et finalement, j'ai pas trouvé l'écoute désagréable, mais je pense qu'il me faudrait plus d'écoute pour vraiment pleinement rentrer dedans. Parce que j'arrive pas à distinguer les titres pour l'instant, mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que c'est à l'image de sa pochette. C'est-à-dire que c'est un très bel ouvrage, très étrange, où il y a plein de choses. Et vraiment, il va falloir que je m'y reprenne plusieurs fois, parce qu'après, c'est vrai que je comprends le rapport qu'a Cédric au silence et tout, mais c'est vrai que moi, j'avais plutôt tendance à me prendre la tête à l'écoute, en fait, plutôt qu'être apaisé. Mais voilà, après, je comprends justement le rapport de Cédric avec ça.
Oui, je te rejoins aussi sur le fait que moi aussi j'ai associé les côtés un peu plus dansants qu'apaisants. Bon, après forcément je trouve ça dans d'autres univers musicales que dans l'IDM ou la glitch. Mais c'est super intéressant de constater que pour Cédric c'est le cas et que c'est encore une fois une affaire de subjectivité. Et c'est un peu ça l'intérêt de l'escale et de ces échanges. Je voudrais juste faire un petit erratum, je viens de réaliser que c'était pas Plone, ça c'était l'épisode sur l'enfance, c'était Romaré qui utilisait beaucoup de samples, voilà. Et on en parlait sur l'épisode sur l'amour. Corentin, toi, quel en a été de ton écoute de ce disque et de cette chronique ?
C'est un des premiers albums que j'ai écouté là, pour la sélection d'aujourd'hui, et j'avais un petit peu... Je m'attendais un peu à ce qui allait arriver vu le thème. Et du coup, c'est un album que je me suis mis en fond sonore au bureau. Et ça a été... Il m'a posé une ambiance parfaite pour m'isoler dans ma bulle dans cette configuration-là. Et j'ai pas eu cette sensation de surcharge de plein d'éléments différents, en fait, qui t'asseyent avec ces samples, etc. En fait, ce qui m'a donné... comme sensation cet album, c'est quand tu fermes tout chez toi, que t'essayes de t'enfermer dans le silence, il reste toujours tout un ensemble de bruits résiduels du quotidien, genre le petit grésillement du frigo, un petit ultrason d'un appareil électronique qui reste, le bruit des voitures dehors ou le bruit de l'eau qui coule dans les tuyaux. Et j'avais l'impression que que Typer avait cherché à sampler tout ça et s'était un peu inspiré ça pour faire sa musique. C'est vraiment l'impression qu'il m'a donné cet album, en fait. Et tout cet aspect un peu familier et confortant qu'on a sur un album qu'on se met en fond comme ça pour se poser, pour s'isoler.
Très belle analyse, c'est vrai. Je n'avais pas vu les choses comme ça, mais c'est assez pertinent de la façon dont tu le dis. Parce que c'est vrai que, pour le redire, les samples sont assez singuliers. En tout cas, moi, j'ai pas vraiment l'habitude d'avoir écouté de la musique avec qui utilise ces esthétiques-là. Quant à toi, Thomas, quel en est-il de ta perception de cette approche? Que ça t'a perturbé? Est-ce que tu t'y es retrouvé? Et surtout, ton rapport au silence dans tout ça?
Je dirais que j'ai peut-être été un peu moins décontenancé que mes deux comparses qui ont parlé juste avant moi. Pas que je sois un expert particulier plus en musique électronique qu'eux, hein, parce que vous me connaissez, c'est pareil, moi généralement c'est guitare, basse, batterie, hein. Mais je sais pas, j'ai déjà entendu parler passer peut-être des choses un peu plus perchées ou qui allaient peut-être plus dans des sonorités électroniques agressives, je pense à des trucs comme Apex Twin notamment, voilà, qui dans le côté expérimental, bruitage chelou, ça se pose là. Et du coup, en fait, la musique de Tipper, je l'ai. C'est... J'ai très bien aimé, Cédric, quand tu parlais de patchwork tout à l'heure. Parce que, ouais, c'est vraiment un patchwork de samples. Mais c'est pas des samples si agressifs que ça. On a beaucoup de petits samples à droite, à gauche. Moi, qui m'ont beaucoup rappelé aussi de la BO de jeux vidéo, pour le coup. Je pense que ça peut très bien se coller à des petits jeux indés, sans trop de soucis. Vraiment, j'ai un parallèle qui s'est fait assez rapidement là-dessus dans ma tête. Et après, je comprends aussi tout ce qui a été dit vis-à-vis de cette idée d'occuper le silence ou de reproduire ce genre de faux silence en fait qu'on a quand on est isolé chez soi avec, comme le disait très bien Corentin, les différents sons résiduels qu'il peut y avoir. Et j'ai perçu quand même tout de suite, moi de mon côté, le côté très apaisant. Le côté... c'est mon calme à moi, tu vois ce que je veux dire, pour retranscrire ce que disait Cédric, c'est-à-dire, c'est pas l'absence de son, mais c'est un son apaisant qui fait du bien. Et après, moi, c'est typiquement le genre de choses qu'en électronique, je pourrais complètement diguer, parce que voilà, c'est très calme, ça, en musique de fond pour bosser, ça passe très bien aussi. Donc, choix de découverte pour ma part.
J'aimerais bien revenir sur un truc qu'a dit Thomas, c'est vrai, il vient de me faire penser. C'est vrai que c'est un disque qu'on peut beaucoup rapprocher des Ambient Works de Aphex Twin. Justement, c'est que maintenant que tu m'as dit ça, en fait, tu prends un morceau comme Extol, c'est pareil, c'est ambient, mais pas vraiment. C'est quand même surchargé, il y a plein d'éléments différents. C'est vrai que j'y ai pas pensé. Mais effectivement, je comprends aussi du coup pourquoi est-ce que j'ai des réserves. C'est parce que, en fait, j'aime bien, mais comme Aphex Twin, voilà, je peux avoir des réserves comme ça.
Il y a quand même un petit peu plus de douceur dans cette exploration de profusion de Tipper. Parce que bon, Aphex Twin,
ouais,
faut s'accrocher quoi.
C'est le niveau au-dessus quand même.
Ouais,
complètement. C'est un peu plus harsh même, ouais.
Ça dépend des morceaux des albums après. Ouais.
Mais merci Thomas pour ta participation, pour cet avis sur cet album. Eh bien, écoutez, on vient d'évoquer un cadre de la musique électronique en s'étant à l'instant Aphex Twin. Je vous propose qu'on continue en toute cohérence avec la prochaine chronique, à savoir celle de Léo.
Vous entendez un son semblant vous rappeler un générique de station de radio. Puis des claviers semblant se faire à la fois menaçants et doux. Pas de doute, vous avez bien lancé Tomorrow's Harvest de Boards of Canada, dernier album en date du groupe à l'heure où nous enregistrons ce podcast, et aussi mon disque préféré de ce duo cultissime de la musique électronique. Si vous avez écouté mes autres interventions sur l'escale, vous n'êtes pas sans savoir que je choisis en très grande majorité des albums de rock ou de metal. Mais pour le thème d'aujourd'hui, je ne me voyais pas choisir d'autres disques que celui-ci. Tomorrow's Harvest, pour moi, c'est une ode au voyage et au silence. Alors attention, non pas que la musique soit chiante, parce que je vois déjà certains de mes comparses arriver avec leurs arguments, mais surtout de par son aura, l'ambiance qui est dépeinte par le duo et qui en fait de facto leur disque le plus contemplatif à mon sens. Contemplatif. Revenons là-dessus, voulez-vous ? Je vous parlais plus haut de l'introduction avec Gemini. Eh bien, l'enchaînement avec le second titre, Reach for the Dead, en dit long. Une longue montée en puissance qui prend son temps, des claviers au son si particulier, une musique à la fois ambiante et rythmée. Je me rappelle avoir été fasciné par ces 4 premières minutes dès la première écoute. Tout ne semblait que futile autour de moi, seule la musique comptait. Comme si je m'étais retrouvé projeté dans cette pochette magnifique, avec ce coucher de soleil sur cette ville nord-américaine. Je me voyais marcher et observer les dernières lueurs de la journée avant la tombée de la nuit. Chacun des titres sera entrecoupé d'une sorte d'interlude d'environ 1 à 2 minutes, rajoutant à l'ambiance unique et mystique du disque. Ils sont composés de sons comme sur White Cyclosa ou Transmissionnet Sphérox, mais aussi d'extraits de radio comme sur l'intrigant Télépaf. J'aime aussi à penser au fur et à mesure que l'on avance dans le disque, la musique s'assombrit. J'ai toujours cette impression que les titres à partir du sombre Ritual sont plus lents et abstraits que les premiers. Comme sur la simple liste Nothing is Real, avec ses sonorités semblant former une boucle et sa mélodie qui vous rentrera immédiatement en tête. Ou encore les très atmosphériques New Seeds ou Come to Dust, qui ne feraient pas tâche dans un film de SF. Dans les moments forts de l'album, comment ne pas nommer les plus de 6 minutes envoûtantes de Jacquard Causeway, qui me font littéralement planer au-dessus des nuages, ou encore l'étrange split sur Infinities avec ses voix déformées. Je pourrais vous parler de ce Tomorrow's Harvest durant des heures, tant il ne cesse de me fasciner depuis sa découverte. Mais son plus grand atout selon moi, et je pense que vous l'aurez compris avec toutes mes éloges, c'est son ambiance. ces nappes sonores créent autour de moi une sorte de bulle de silence qui me coupe de tout contact avec l'extérieur. Quand je termine son écoute, plusieurs choses me viennent à l'esprit. Ai-je rêvé? Où suis-je? Que vient-il de se passer? Après plus d'une heure à avoir perdu mes repères, je n'ai qu'une seule envie, relancer ce disque et repartir dans ce voyage introspectif à la fois doux et sombre. Vous aussi, laissez-vous happer par le voyage que propose Tomorrow's Harvest. C'est une expérience que vous ne regretterez pas.
Merci beaucoup Léo pour cette chronique sur Tomorrow's Harvest de Bands of Canada, un autre grand nom de la musique électronique pour un versant beaucoup plus ambiant. Je voudrais saluer déjà pour commencer Christophe de Enjoy the Noise qui en est un très très grand fan. J'aurais beaucoup aimé l'avoir ici afin que, d'échanger autour de ce groupe parce que j'ai souvenir de lui qui en parlait de manière très pointue au détour de soirée de ce Bands of Canada et de ses différentes couleurs qui au final a assez peu d'albums qui justement chacun ont vraiment cette couleur qui ressort. Tomorrow's Harvest a effectivement ce côté beaucoup plus nébuleux. Moi, j'ai tendance à m'envoyer en boucle leur premier album, donc Music Has Right to Children, qui a une approche beaucoup plus sur le sample et sur la texture, etc., etc. C'est encore un disque que j'étudie beaucoup avant de passer plus en détail sur la discographie du groupe, quand bien même donc j'ai déjà entendu des morceaux de ce Tomorrow's Harvest, en plus de mon écoute pour ce podcast. Bon, forcément, la musique ambiante, c'est ce qu'on associe le plus dans la musique au silence et à l'espèce de sensation de paix que cela peut amener. Donc, je pense que c'était évidemment un bon choix pour le thème de cet épisode. Mon cher Thomas, toi, quelle est ta relation à Bands of Canada et donc la proposition de cet album pour cet épisode ?
Alors, Bands of Canada fait partie des artistes que je connais depuis plus de 10 ans, je pense. Oh, peut-être pas. Mais ça fait déjà une paire d'années et que j'ai toujours pas. Je me suis toujours pas mis dessus. C'est une honte, je sais. Il va bien falloir commencer à mettre le nez dedans un jour. Je sais pas si par ce Tomorrow's Harvest, c'était la meilleure entrée en matière pour moi. Parce que c'est vrai que j'ai eu du mal à en sortir grand chose en fait de cet album à la première écoute. Shame on me, hein, je ne l'ai pas écouté plus d'une fois en entier, faute de temps. Mais je pense que oui, enfin, il n'y a aucun doute quant au fait que le morceau, enfin l'artiste et l'album soient bien. Soient bien de thème avec le silence. De part de la musique ambiante, évidemment. Mais c'est vrai que j'ai plus préféré l'expérience de Tipper en termes de musique électronique, par exemple, par le côté peut-être un peu moins abstrait, quand même, de ce qui pouvait ressortir comme son, que du Bands of Canada, ou du moins sur cet album-là, où c'était plus une masse difforme, on va dire, sans réel point d'accroche en termes d'écoute. Donc je veux pas trop m'étendre là-dessus, mais bon, je pense qu'il faut que je me plonge un peu plus sur la discographie du groupe, parce que je sais qu'elle est de très bonne qualité et qu'il y a des trucs très très bons à écouter. C'est peut-être pas le genre de choses que je vais me renvoyer, je pense, facilement, mais au moins pour ma culture perso, c'est serait important.
Ouais, n'hésite pas à commencer par leur premier album, parce que ne serait-ce que sur la rythmique, on a des éléments qui se rapprochent beaucoup plus du chill ou du trip-hop. Ils ont pas mal été comparés à Massive Attack sur certains éléments par rapport à ça, ouais. Cet album.
C'est assez typiquement le genre de choses, ouais, qui vont plus, où je vais peut-être avoir plus d'accroche de par mon background rock.
Je pense qu'ils te parleront beaucoup plus, parce que Tomorrow's Harvest est déjà beaucoup plus abstrait. Je continue de penser que ce premier album est la meilleure porte d'entrée pour Bands of Canada, parce qu'ils ont une approche de texture qui rend ça un peu plus facile, parce qu'il me semble que les deux albums suivants sont beaucoup plus abstraits, mais il y a un des deux que je n'ai pas écouté de mémoire, donc je ne me prononcerai pas plus que cela. Toi, mon cher Corentin, qu'en as-tu pensé de cet album ?
Alors, comment ça, Bands of Canada, ça ressemble à Massive Attack? Mais vraiment, je tombe des nues, hein.
Oh, putain.
Non, Thomas a très bien décrit ma première écoute aussi de l'album. Il m'est un peu coulé dessus la première fois. D'ailleurs, j'avais demandé à Léo ce qu'allait être l'axe de sa chronique, parce que j'étais un peu désemparé à la première écoute. Et puis, je me le suis écouté hier soir, sur la route, au crépuscule. Et je pense que j'ai trouvé les conditions idéales. D'ailleurs, t'as parlé d'eau de voyage et le coucher de soleil sur la pochette. C'était, C'est vraiment la bonne configuration pour partir dans l'univers de l'album. Bon, attention quand même à être vigilant hein, au volant, on sait jamais. Mais oui, non, très très bon album pour romantiser le trajet que vous avez à faire à la tombée de la journée.
Merci beaucoup, Corentin. Alors, Cédric ?
Oui ?
Il me semble qu'en backstage, tu as lancé quelques menaces par rapport à certaines chroniques.
Pas sur celle-là.
Pardon ?
Pas sur celle-ci.
Pas sur celle-ci ? Ah, bah alors, quel est donc ton avis sur Boards of Canada ?
Bah, en fait, j'ai à peu ou prou la même approche que Thomas, puisque moi aussi, j'en ai entendu parler depuis des plombes par Christophe Dangerous, comme tu l'as dit, mais aussi Antoine Daniel et Feltup, qui, je sais, sont fans du groupe. Et comme Thomas, moi aussi, j'ai vu qu'ils adoraient ça, et j'ai vu des gens en parler, et puis je me dis, bah, je m'en bats les couilles, j'écoute pas. j'ai jamais pris le temps d'écouter. Donc, bah, du coup, Thomas Rosarest était ma porte d'entrée. Et c'est vrai que c'est particulier parce que c'est effectivement très contemplatif, ça on peut pas le nier. Il y a des belles plages d'ambiance qui sont magnifiques, mais en même temps il y a toujours un petit truc qui vient foutre un espèce d'effet malaisant, déstabilisant. Moi j'ai surtout ce qui me vient en tête, surtout le mot désarçonné. Parce que t'as toujours des petites mélodies un peu bizarres, tu te dis, mais qui sont pas dans le même ton, sur la même grille d'accord ou quelque chose comme ça. Il y a des bruits parasites aussi, enfin, mais qui fait que en fait c'est apaisant, mais non. c'est très bizarre comme rendu, ce qui fait que je vois l'aspect du silence. Mais aussi, le truc, c'est que je pourrais pas être serein en écoutant ça, moi. Et donc, du coup, faire silence, enfin, pour moi, si on se rapproche un peu de ma chronique, c'est si on se dit, c'est un truc dans lequel tu vas, si ça t'aide à t'enfermer dans ton silence, moi, je pourrais pas, moi, parce que justement, je serais toujours un petit peu mal à l'aise.
Mais. Il y a un côté un peu angoissé en soi.
Voilà, c'est angoissant. Surtout que, alors, je sais pas si c'est directement dans leur composition ou si c'est des ajouts, des samples comme ça, mais il y a souvent des effets de bruit blanc, c'est comme une sorte de filtre vieillissant qu'on avait foutu sur la piste. Comme si la piste avait tourné, avait été sur une bande magnétique qui avait été un peu usée, tu vois.
C'est un peu artificiel.
Qui fait que pareil,
ça,
t'as ouais. toujours un petit peu, enfin, ça fait toujours très bizarre. Et quand en plus, comme moi, t'as écouté The Caretaker, les petits bruits parasites comme ça, ça te déclenche un petit peu des PTSD. Mais
bon, ça fait ressortir les traumas, ça.
Le Vietnam.
Je crois me souvenir justement de. Alors, si ma mémoire est bonne, hein, parce que ça remonte à une paire d'années, de Christophe qui parlait de Thomas Harvest comme une espèce de quiétude, mais un petit peu morde, un peu à l'image de cette pochette hein, qui a ce côté coucher de soleil, mais avec l'aspect de la ville qui a le côté beaucoup plus grouillant, qui tu sais pas trop ce qui va s'y passer, et donc on peut y faire ce rapprochement un petit peu par rapport à ça.
Ça me fait penser que genre il y a une sorte de petit côté un peu du coup pour retranscrire ce que disait Cédric, tu sais un peu creepypasta. Dans le genre de, enfin, ouais, bah, The Caretaker forcément étant un des meilleurs exemples, mais voilà cette idée de musique un peu dissonante, un peu bizarre, comme s'il y avait un truc, c'est ça, inquiétant, pas tout à fait normal, contre un truc qui en fait au premier abord paraît pas simpliste, mais paraît inoffensif, tu vois.
Ça fait un peu l'équivalent musical des Liminal Space.
Oui, voilà, c'est ça. Ah, je cherchais des parallèles.
J'ai pas fait le rapprochement, ouais. Mais oui.
Mais alors, après. Mais ouais. Étonnamment, c'est vrai que c'est un disque qui est assez sombre, mais en fait, c'est moi aussi, hein, je vous avoue, j'arrive pas à savoir si le disque est sombre ou lumineux. C'est ce que j'aime, en fait, c'est justement cette dichotomie, le fait que le disque reste pas que sur un truc, en fait, il part un peu dans tous les sens, de façon calme. Et étonnamment, malgré tout ce que vous dites, hein, j'entends, c'est vrai que c'est un disque qui est quand même pas facile d'accès, et bizarrement, c'est le disque qui m'a fait entrer dans l'ambiance. C'est le disque qui m'a fait me dire, ah tiens, on peut faire des choses intéressantes dans ce style, et je vais aller creuser. Alors que c'est pas le disque, effectivement, le plus posé qui soit. Hein.
Bah alors, je vais un peu spoiler, mais dans les albums qui suivent, il y a un album qu'on peut considérer comme pas très lumineux, qui moi m'a beaucoup apaisé. Et on en reparlera bientôt.
Et pour rebondir sur ce que tu disais, Cédric, sur les bruits un peu parasites, un peu bizarres, je trouve qu'ils complètent bien l'album dont t'as parlé de Tipper, dans le sens où autant Tipper, j'avais l'impression qu'il utilisait des bruits qui nous sont plutôt familiers pour faire quelque chose de complètement expérimental, que là, Boards of Canada, il a vraiment ce sentiment de cette impression de bizarre, comme s'il décrivait un genre une dimension un peu parallèle, quoi.
Après,
familier, mais quand même qui nous est étranger.
A priori, ça, c'est un truc qui se retrouve sur toute la discographie du groupe, que c'est un peu ésotérique, mystérieux, quoi.
Il y a ça, et puis même sur le travail des tout ce qui est les ambiances bizarres et tout. Je sais pas si vous avez vu le film Sinister, et bah le morceau de. Sur la toute fin, en fait, le générique de fin, c'est un morceau de l'album le plus bizarre de Boards of Canada, qui est, je crois qu'il s'appelle Stereoscope, l'album. Enfin, le morceau, et c'est de l'album Geogaddy. Déjà, vous voyez la pochette de Geogaddy, c'est.
Geogaddy, qui je crois est l'album le plus perché de Boards of Canada, hein, si je fais pas de bêtises. Hein.
Ouais,
c'est l'album rouge et jaune, là.
C'est ça, ouais.
C'est pas comme si Feldup en avait parlé dans sa vidéo sur les morceaux les plus déroutants.
C'est ça, mais voilà, il y a vraiment un morceau qui est à la fin du film Sinister qui, moi, du coup, m'a complètement traumatisé. Donc voilà, je crois que c'est Stereoscope, un truc comme ça, mais vous irez chercher par vous-même.
Ok. Eh ben, merci beaucoup, messieurs, pour ces très beaux échanges sur les abords du Canada. D'ailleurs, si jamais vous avez envie d'explorer un petit peu ce pays, n'hésitez pas à vous rapprocher des DM d'Azukero, qui a quelques connaissances du terrain, d'après ce qu'on dit.
J'ai quelques adresses, en effet, paraît-il. À Skip.
Paraît-il, là. Mais bon, on n'est pas là pour faire du tourisme. Nous, ici, on est plutôt là pour voyager avec la musique. Donc, je vous propose d'aller vers un nouvel univers avec la prochaine chronique, à savoir celle de Corentin.
Dans l'espace, personne ne vous entend crier. Cette phrase, devenue aussi culte que le film dont elle assurait la promotion, cache en son sein une double signification encore plus effrayante. Si dans le vide vous êtes inaudible, cela veut aussi dire que toute menace échappera aussi à la vigilance de votre ouïe. Vos oreilles étant bien plus performantes que vos yeux pour la prévention du danger, celles-ci ne présentant pas d'angle mort. Le nom de Bloody Cantation s'est fait connaître dans le milieu du death metal pour son association entre musique technique et progressive, du moins pour les albums réguliers du groupe, et vous vous demanderez sûrement ce qu'un groupe pareil viendra faire dans une escale sur le silence. Et bien tout simplement parce qu'en 2022, le Quatuor de Denver a sorti Time Wave Zero, un disque de drone ambiante instrumentale explorant une nouvelle facette de l'univers du groupe. La science-fiction sombre et menaçante est toujours au programme, mais laisse cette fois-ci votre imagination vagabonder parmi d'inquiétants paysages. Que ce soit dans les coursives d'une station abandonnée, dans le vertige d'une sortie extravéhiculaire ou sous le ciel ténébreux d'un astre dénué d'atmosphère. Le dénominateur commun étant l'insondable épaisseur du vide qui vous isole de toute onde sonore.
Vous voilà confiné dans la mince bulle de votre scaphandre, aéré seul dans l'écrasante immensité de l'espace. Pour vous accompagner, seul viendra l'écho de votre respiration contre la paroi de votre casque. Si un bourdonnement se fait soudainement entendre, ne concluez pas trop vite sur son origine. Est-ce que c'est un bruit blanc venant de votre oreillette, ou est-ce que c'est le bruissement de votre circulation sanguine qui vient réclamer son dû? L'absence de perturbations extérieures ne masquant plus le flux de vos vaisseaux qui résonnent par conduction osseuse. Peut-être vous sentirez-vous plus à l'aise sur le plancher des vaches. À la surface d'une étrange planète encore inexplorée, le bruit de vos pas pourra au moins venir tenir compagnie à votre sentiment de solitude. Mais dans ce désert glacial privé d'atmosphère, une crainte s'empare progressivement de vous. Êtes-vous réellement seul à fouler ces étendues inhospitalières? Dans la pénombre, rien ne vous permettra de distinguer si vous êtes l'unique entité vivante à fouler cette terre, ou si un mystérieux rôdeur s'apprête à vous sauter dessus, d'un instant à l'autre. Heureusement, l'absence d'air respirable balaye rapidement cette seconde hypothèse, et bientôt vous commencerez à trouver une certaine grâce à ces paysages silencieux. Tandis que se lance le troisième mouvement de Ea, vous êtes alors subjugué par le décor que propose cette géode enfouie dans des millénaires de mutisme. Les volcans endormis qui vous entourent préservent leur mystère au cœur d'une éternité sourde. Leur intense activité souterraine se dérobant à vos oreilles derrière une infranchissable barrière insonorisée.
Aussi oppressant que majestueux, le silence de l'espace est fascinant. Autant par le danger qu'il incarne, ou que par le calme qu'il représente. Il forme un univers entier, quasiment immaculé de toute perturbation. Si le son nécessite un support physique pour exister, insignifiant à l'échelle du cosmos, la musique nécessite une entité sentiente pour apparaître. Alors, la prochaine fois que vous lancerez votre chanson préférée, n'oubliez pas que cette rencontre est un peu celle de deux grains de sable dans un désert endormi.
Joli, et en plus il fait de la science avec ça. Vraiment bravo. Clap, 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 clap. Et merci pour ce choix de Blood Incantation. Alors, je t'avoue, quand j'ai vu la pochette, j'ai vu le logo de la police du groupe, je me suis dit, what the putain de fuck, j'ai lancé un morceau d'un précédent album, et je me suis dit, mais qu'est-ce que vient de faire du putain de death metal dans mon épisode sur Silence? Vraiment. Et donc après, bah, je lance l'album, arrive le premier mouvement de Io, et je me mets à regarder ma montre, ça fait minute 28, j'ai entendu qu'un seul drone, et je me dis, mais putain, mais c'est la version dark de Shining Crazy Diamond que je suis en train d'écouter, en fait, c'est ça. Non, bon, allez, on va reparler sérieusement. Donc, effectivement, un album encore dans une veine ambiante, mais cette fois qui prend plutôt des couleurs sur la musique drone, avec des petits éléments synth. Alors, pas vraiment wave, pas vraiment dark non plus complètement. Parfois, on va avoir un arpège ici et là,
un petit
qui arrive sur EA par moment, voilà. Et voilà, forcément quelque chose qui évoque beaucoup d'espace dans la place sonore, et donc qui colle bien avec toute une imagerie spatiale. Alors par contre, je sais pas pourquoi, à quel moment ça m'est pas frappé, mais j'ai pas eu de rapprochement avec l'imagerie spatiale, alors que pourtant bah, la pochette est assez évocatrice, et l'univers du drone associé à cette pochette, ça tombait un peu sous le sens. Mais bon, bravo moi. Enfin, bravo. En toute ironie, bien entendu. Hein. Mais voilà, très 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 bon choix, très très belle chronique, belle proposition de ta part, merci beaucoup. Donc, Cédric, tout à l'heure, tu as parlé d'un album qui t'a apaisé, donc cette fois, je vais miser sur le fait que c'était cet album-là.
Oui, tu verras bien ce que je pense de Nothing. Enfin, tu verras bien ce que je pense du prochain album.
Attention, ça se voit.
Il n'y a pas eu un spoil, attention.
Oh là 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 là. Alors, la référence d'entrée, je ne peux qu'applaudir et acquiescer, hein, vu que c'est un de mes films préférés. Alien pour ceux qui n'ont pas eu la référence. Et ensuite, tout comme toi, Paul, j'étais passé complètement à côté de l'aspect spatial de l'album.
Oh, ça prend sûr.
Pardon ?
Mais vous le faites exprès, c'est pas possible.
Ah non,
oui. Vous avez regardé les autres pochettes du groupe aussi ou pas?
C'est la première fois que j'écoutais Blood Incantation et j'ai rien écouté d'autre du groupe, donc j'ai juste vu que, comme Paul, que effectivement au départ c'était un truc de death metal, donc j'ai dit bon, allons-y. Comme Paul, j'ai fait
au bout d'une minute de death metal qui sort un album d'ambiant, là le grand écart, je pense que même Van Damme il le tente pas, hein, c'est...
Non mais le truc c'est que je me suis fait exactement la même réflexion que Paul, c'est j'ai pensé à Shine On You Crazy Diamond Dark aussi. C'est je me suis dit vas-y, c'est comme Shine On You Crazy Diamond si Gilmour avait jamais venu poser sa guitare par-dessus quoi. Enfin en version plus dark évidemment hein, cela s'entend. Alors et effectivement comme j'ai dit, c'est un album qui m'a beaucoup apaisé, que je me suis passé plusieurs fois depuis que je l'ai découvert pour cette escale. Parce que pour moi c'est comment dire, c'est déjà bon, on va commencer par le début. C'est drone pour moi, il y a une grosse ambiance synthé, donc forcément le plaisir hein, on va pas se mentir, mais enfin c'est une ambiance nocturne pour moi, pas forcément spatiale. Évidemment maintenant que j'y repense, l'aspect spatial est sacrément évident. Mais c'était surtout par une, je m'imagine surtout plus une nuit assez sombre, très contemplatif, ou aussi tout ce qui est méditation et tout ça. Je pense que ça irait très bien avec cet album, qui est, je spoil un peu, mais mon préféré de ceux que j'ai écouté pour cette escale. Et je dois aussi quand même applaudir le groupe, parce que quand tu fais du death metal, sortir ça, se dire vas-y, ça va passer. Bah bravo, enfin prise de risque énorme, succès plus que mérité derrière je trouve. Au passage, allez voir les commentaires YouTube, c'est hilarant. c'est très marrant les commentaires YouTube sur le, puisque notamment ils applaudissent le travail du vocaliste sur l'album. Voilà. Hein. Là donc une très belle surprise. Pour sûr, et du coup, alors, J'ai cru comprendre qu'il y avait deux, trois autres pistes dans leur discographie dans cette ambiance. Je crois que j'ai un peu exploré un peu plus le groupe.
C'est sûr que c'est assez singulier d'avoir un tel soit écart. Et en même temps, c'est un peu dans l'air du temps pour les groupes de métal, en tout cas dans ce genre qui a à une époque eu beaucoup d'entre-soi et de citations des pairs. En tout cas, on tend vers beaucoup plus d'ouverture. Et puis bon bah au final tout ce qui est drone, disons qu'avec des groupes comme Sun, on est sur un autre type d'extrême. Et en parlant d'extrême, toi Thomas, bon alors t'es souvent assez ancli de ce genre de jeune univers. Du coup, qu'est-ce que tu as eu comme avis de Blood Incantation? Peut-être que tu connaissais déjà.
Alors oui, je fais partie des personnes ici qui ne sont pas des incultes et qui du coup connaissaient Blood Incantation avant le avant la sortie, enfin avant l'écoute de cet album-là, même si je n'avais vraiment aucune idée qu'ils avaient sorti un album d'ambiance comme ça, puisque bah pour moi Blood Incantation c'était notamment l'album comment il s'appelle, Hidden History of the Human Race, qui est sorti en 2019 et qui avait fait énormément de bruit à l'époque, qui avait été beaucoup acclamé par les, qui était remonté dans beaucoup de top metal de 2019, et à juste titre, parce que c'est un très très bon album de death, comme disait Corentin, de death technique spatiale, voilà, qui part un peu de tous les sens avec des morceaux, hein. Le dernier morceau fait 18 minutes, hein, voilà, donc. Et du coup, bah, à l'écoute de celui-ci, donc déjà, bah, le fait de dire, ah bah tiens, les mecs, ils ont fait de l'ambiance, en vrai, trop cool, sympa. Comme tu disais, ça, c'est un peu dans la mouvance de ces groupes de death qui ont un style ultra vénère. Je pense à des trucs comme, alors pas forcément death non plus, mais t'as Cattle Decapitation ou Lorna Shore qui, voilà, commence à être des groupes qui vont explorer d'autres terres que le cliché qu'on peut avoir de ce groupe-là et de toute leur imagerie. Donc ça, c'est plutôt cool. Et moi, ça m'a aussi beaucoup rappelé, alors Paul, tu t'en souviens peut-être, épisode numéro 3 de l'escale sur l'espace, l'album de Barn Hall, c'est ça, Ancestral Stars, qui avait présenté Dark Platinum à l'époque, qui était aussi un album de drone porté sur l'espace, mais qui avait un côté...
Plus Black.
Ah non, l'album de Black, c'était moi. C'était moi, j'avais présenté Oranti Pazuzu à l'époque.
Ouais, mais non, mais c'est pas sur cet album, il me semblait, où il y avait une imagerie très black avec, avec des cris, mais très dronesque.
C'était très dronesque, mais ça ressemblait plus à, tu sais, genre dronesque, comme si ton vaisseau spatial tremblait parce que tu t'approchais de l'étoile, tu vois. Ou ce genre
d'accord.
De choses, tu vois.
Donc vraiment. Effectivement, avec une autre escale des débuts, ouais.
C'est possible.
Ah non, voilà, je confonds avec l'album qu'il nous a présenté sur le pilote de l'escale sur l'hiver.
C'est possible. Mais oui, du coup, ouais, un aspect plus brutiste, on va dire, que là, ici, on est vraiment dans un ambiance plus posée, plus apaisant. Donc, je comprends Cédric qui disait que ça le calmait. Et après, voilà, c'est vraiment deux pièces qui s'écoutent d'une traite, quoi. Ça fait quasiment un ensemble commun. Et je trouve que la pochette retranscrit vraiment bien l'ambiance de l'album, parce qu'on a ce côté soleil rouge très inquiétant avec, enfin vraiment la pochette je la trouve magnifique pour le coup, voilà le côté un peu menaçant, mais t'es quand même dans l'espace, dans le vide, donc en fait y a pas particulièrement de bruit, non ça passe très très bien. Ça m'a rappelé aussi certains jeux pareil, de certains jeux vidéo qui auraient de l'exploration spatiale et qui pourraient typiquement mettre ce genre d'ambiance par moment pour, entre guillemets, faire stresser un peu le joueur. Ça marche aussi très très bien. Et donc du coup, gros GG à Blood Incantation pour être sorti de leur entre guillemets, zone de confort, de tenter des choses et de le faire plutôt bien et de rester quand même dans sa thématique du coup de l'espace. Comme ça, on peut pas dire que c'est genre juste ils ont sorti un album de zouk comme ça parce qu'ils avaient envie, tu vois. Il y a une démarche derrière artistique qui se justifie complètement.
Ouais, complètement. Ça fait bien BO d'un Dark Outer Wilds.
Par exemple.
Cédric, tu voulais dire quelque chose?
Bah, que du coup, vu la référence, je pensais à Alien Isolation en tant que jeu sur lequel ça pourrait coller.
Oui, oui, complètement. Alors, si ma mémoire des let's play de l'époque est juste, effectivement, et ça joue beaucoup sur les chansons très dronesques, des trucs très stressants, beaucoup plus angoissants, avec pas mal d'un point de vue sound design pour mettre de la tension dans les phases du jeu. Mais effectivement, j'ai souvenir également que le silence a une grande part dans la tension. Et la pochette ici capture très bien ce côté silence à la fois écrasant et apaisant dans ce vide spatial. Léo, toi, ton avis sur cet album ?
Bah écoutez, vous avez déjà dit beaucoup de choses, mais je vais rajouter mon petit grain de sel. Déjà, merci Thomas, je me sens moins seul parce que putain, Blood Incantation. Putain, ouais, c'est un des groupes, moi, qui m'a le plus retourné dans le death metal depuis 4 ans, en fait. Depuis Eden History of the New Human Race, un de mes albums de death préférés de ces dernières années. C'est, comme l'a dit Thomas, hein, c'est 4 morceaux pour 36 minutes, avec un des morceaux qui dure 18 minutes. Ça plante le décor, technical death metal avec un côté prog spatial, avec j'ai un kink tout particulier pour le morceau Inner Path to Outer Space, qui est une petite pépite, et que je recommande, même si vous n'aimez pas le death metal d'habitude. Une pièce instrumentale de mémoire. Et sinon, bah écoutez, Time Wave Zero, c'est vrai que quand ils l'ont annoncé, d'un côté j'étais surpris en mode, oui c'est vrai qu'ils passent sur un truc plus aérien, plus différent, et en vrai c'est pas tellement étonnant, parce que comme l'ont dit mes comparses, bah on a ce côté, ils ont toujours ce côté très science-fiction, et justement ça parlait d'Alien, cœur avec les mains, mais voilà, on retrouve vraiment l'ambiance justement très oppressante, très sombre de genre de film alien, même un peu Blade Runner sur le côté un peu noir. Mais voilà, c'est vrai que c'est étonnamment, j'aime beaucoup l'ambiance et Blood Incantation, je l'ai pas tant écouté que ça Time Wave Zero, alors que justement il est super intéressant. Justement sur le silence spatial, mais le silence un peu justement qui on sait pas sur quel pied danser, le silence un peu malaisant, ou comme l'a très bien décrit Coco, hein, c'est vraiment ce côté, bah on sait pas s'il y a quelque chose qui va arriver, ou je me suis dit, à un moment, les connaissants, puis ouais, à un moment, il y aura un gros riff de guitare, ah bah non. non, mais voilà, et par contre, Blood Incantation, c'est ce groupe que j'ai loupé en live au Brutal Assault, et je suis dégoûté, parce que je voulais les voir, ça doit être super intéressant, et je suis très curieux de voir, je sais qu'ils ont sorti des singles que je n'ai pas écoutés, mais je suis curieux de voir sur quel versant ils vont aller justement après ça, parce que Time Wave Zero, ça peut présager de bonnes choses quand ils vont revenir un peu au death metal, voir si ils vont incorporer des éléments comme ça, ou s'il va être encore plus cinématographique que Starspawn ou Hidden History of the Human Race. Je suis très curieux, et merci du coup Kafis, parce que justement ça me donne envie de me replonger dans cet album et dans Blood Incantation de manière générale, parce que ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas écouté.
Eh bien, tu me donnes une petite transition toute trouvée. Comme tu ne sais pas dans quelle direction il se dirige, si vous avez aimé Time Wave Zero, je vous invite à aller écouter le morceau Luminescent Bridge qu'ils ont sorti tout récemment. Au moment de l'enregistrement, oui. Donc, si ça se trouve, quand l'épisode va sortir, l'album sera sorti lui aussi. Et oui, qui est un petit peu dans la même veine. Et quand on regarde la pochette, on a l'impression que c'est la suite.
Mais c'est vrai que t'as aussi, tu sais, l'idée que, enfin, en tout cas, on a deux versions de Blood Incantation, et moi, j'imagine très bien le concept album, avec justement des morceaux de death metal, comme ils ont l'habitude de faire bien patate, et entre deux, des passages, des morceaux de transi ambiante, en mode, peut-être un peu, ça ferait un peu grand écart, mais en vrai, je pense, ça peut coller, si tu gères ça à peu près bien, et comme ça, bah, t'as les meilleurs du monde du groupe dans un seul album.
Ah, je serais très curieux d'entendre effectivement un album qui a mis ces deux extrêmes-là et qui arrive à jouer sur ces deux tensions.
J'en rêve.
Eh bien, écoute, vous écouterez l'autre single qu'ils ont sorti récemment, proche de l'enregistrement de cet album, parce qu'ils ont aussi sorti un single qui s'appelle Obliquity of the Ecliptic, qui est plutôt sur la partie Brutal Death et Death Technique de la musique de Blood Incantation, et qui a l'air d'être sur le même album.
Opeth avait fait un truc à peu près dans cette démarche, là, avec Damnation et
Deliverance, voilà. Damnation, ouais.
Ouais, voilà, avec un album bien, bien death, et puis un autre album quasiment full acoustique, quoi.
Alors ouais, après, oui. Les faire à part, c'est une chose, je trouve que c'est beaucoup plus difficile en termes d'exercice de le faire dans un corpus de travail cohérent.
Exactement.
Mais par contre, souvent, explorer les deux, ça permet aux artistes de trouver la petite formule pour lier tout ça, ou en tout cas préparer leur audimat, n'importe quoi, leur auditeur ou auditrice à accepter le nouveau mariage de ces deux variations. Ce serait pas la première fois que des groupes dans ces univers, ces mouvements extrêmes, font gober la pub comme ça. Merci beaucoup pour ces échanges très beaux sur Blood Incantation. Je vous propose qu'on aille tout naturellement vers la dernière chronique de cet épisode. avec celle de Thomas. Donc, je t'en prie, le micro est tien.
Merci beaucoup, Paul. Tout d'abord, je vais rebondir un petit peu sur ce que tu disais dans ton introduction de l'enregistrement de ce podcast, à savoir, quand on parle de silence, parler de silence dans la musique, ça paraît un peu contradictoire, puisque comment une pratique qui brise la tranquillité d'un environnement donné peut décrire le silence ? Comme parmi mes comparses ici présents, je suis toujours un amateur de gros sons, des musiques bruyantes avec des guitares, des grosses guitares saturées et des rythmes assommants qui permettent à la fois de se défouler mais aussi de se transcender. Et pourtant, dans un morceau bien composé, rien ne sera plus efficace à mes oreilles qu'un contraste entre une explosion sonore et un silence qui le précède ou le succède. Comme par exemple une envolée musicale dans certains groupes de post-rock, mais aussi des gros breakdowns tu connais. c'est ainsi que, naturellement, j'ai fini par m'intéresser aux groupes qui se sont penchés sur ces contrastes, en allant piocher dans le prog, puis dans le post-rock, mais sans forcément aller chercher à la source de ces styles. Et puis, il y a quelques années, au détour de l'écoute d'un épisode du podcast La Porte d'Entrée des camarades de La Pause Clope, j'ai découvert que le silence dans la musique pouvait être bien plus qu'une simple histoire de contraste. Car, malgré les apparences, la musique de Talk Talk est pour moi le parfait exemple de l'utilisation du silence et sans doute l'un des groupes les plus influents de son époque. Pour le grand public, la formation ne se résume qu'à la première partie de sa carrière, avec ses tubes typiquement 80s que sont Such a Shame et It's My Life, parus sur l'album du même nom sorti en 1984. Mais, au fur et à mesure de leur courte discographie de 5 albums, le groupe va progressivement chercher à développer des expérimentations musicales dans ses compositions. Évoluant ainsi du néo-romantisme synth-pop cliché des années 80 vers du hard-rock, puis jusqu'à poser les premières pierres du post-rock avec Spirit of Eden en 1988, un suicide commercial quand on est signé chez une major comme EMI, mais un succès d'estime qui laisse un héritage immense derrière lui. Même si Spirit of Eden marque le point de bascule stylistique du groupe et a exercé une énorme influence sur une génération entière de musiciens de post-rock, pour moi, leur travail le plus marquant est l'évolution finale du groupe, leur chant du cygne et dernier album nommé Laughingstock. Sur celui-ci, la bande de Mark Hollis continue de mixer ses influences jazz, blues ou folk en passant par le classique. Mais il pousse le concept d'exploiter le silence dans la musique à son paroxysme. Les sonorités pop et entraînantes des débuts sont déjà bien loin. Rien que le premier morceau, Mirman, débute sur un faux long silence d'une quinzaine de secondes où l'on peut juste distinguer le grésillement d'un ampli allumé en tendant l'oreille. Le groupe y déploie une approche minimaliste où chaque note, chaque détail minutieux compte. Du positionnement des instruments dans la salle d'enregistrement au choix des micros, la musique se déconstruit pour laisser place au silence. Les espaces vides entre chaque note sont savamment calculés et les mélodies sont de plus en plus diluées le long des morceaux, remplacées par des passages plus ambiantes. Il ne s'agit plus de chansons, mais d'instrumentalisations toujours plus expérimentales. Mark Hollis laisse une liberté totale aux musiciens qui se prennent au jeu des improvisations comme on peut l'entendre sur After the Flood par exemple. Le silence s'installe et prend de plus en plus de place. Comme une preuve d'amour et de profond respect pour ce dernier, les musiciens choisissent alors précisément le moment où rompre ce silence, comme s'ils ne souhaitaient pas briser maladroitement cette chose si précieuse à leurs oreilles. A l'inverse, c'est même lui par moments qui vient s'imposer brutalement comme sur la fin d'Ascension Day où, à la manière des Beatles, le groupe interrompt net le morceau pour enchaîner sur After the Flood qui lui revient timidement via un fade-in. L'album se permet également des moments de clair-obscur incroyables avec le côté crépusculaire de Taphead et sa clarinette inquiétante et dissonante, puis en enchaînant avec l'ambiance lumineuse et apaisante de Newgrass, comme si le fait que ce soit la fin du groupe ne soit pas quelque chose de si triste finalement. Comme le confiait Mark Hollins lui-même en interview, « Je préfère entendre le silence qu'une note inutile. » Ce genre de démarche est clairement à contre-courant de notre époque où nos oreilles sont constamment agressées par les sons qui nous entourent. D'une télé allumée en fond, du bruit continu de la ville ou encore les productions musicales grand public qui semblent omnubilées par ce besoin d'occuper l'espace sonore d'un morceau en continu. La démarche de Talk Talk procure à l'auditeur un sentiment de flottement et de détente, notamment retranscrit par le dernier morceau de l'album, Runei, avec ses quelques notes de guitare et son piano désaccordé en fond sonore. Au-delà de la musique, le silence est aussi présent dans le comportement du groupe. Plus de représentations live à partir de 1988, il refuse de participer au brouhaha du show business et se retire progressivement de l'espace public. Dans ces conditions, on comprend beaucoup mieux le choix du nom de l'album Laughingstock, qui signifie la risée en anglais. Le groupe, peu préoccupé par son échec commercial, nous indique clairement qu'il n'a jamais voulu faire partie de ce monde-là. et difficile de leur en vouloir quand on regarde la qualité de leur discographie et de ce qu'ils ont pu réaliser sur la fin de leur carrière, libérés des contraintes des producteurs de majors. Le groupe disparaît donc en 1992, de la plus belle des manières, avec ce superbe album de post-rock en guise de testament. Car après Laughing Stock, Mark Hollis retournera une dernière fois en studio pour enregistrer un album solo en 1998, toujours plus calme et uniquement avec des instruments acoustiques. Et puis, plus rien. Il vivra en retrait total du monde de la musique et de la vie publique, sans aucune information ni interview, jusqu'à son décès en 2019 des suites d'un cancer. Mark Hollis et Talk ont définitivement arrêté de parler pour laisser totalement la place au silence qui leur a été si cher. Mais leur héritage, gravé silencieusement dans la mémoire collective, perdurera tant il est une pépite unique en son genre. Car comme on dit, le silence est d'or. Drop de mic.
Bravo. ouais, c'est ça. Bravo. Magnifique chronique. Bon, je suis un peu biaisé parce que je suis un grand fan de Talk, j'ai beaucoup d'affect. Pour d'ailleurs les deux versions de leur discographie, bon, alors, évidemment pour leur rôle d'initiateur d'un genre musical qui me tient tellement à cœur, il y a qu'à voir toutes mes sélections dans la grande majorité de mes escales pour bien le capter. Et d'ailleurs Mark Hollis, qui cet album, si je ne me trompe pas, était surtout un album forcé par rapport à son contrat avec la Majors, qui après effectivement, je me suis douté que t'allais je me suis beaucoup plus concentré lorsque tu as annoncé l'album sur le côté du silence qui a suivi la disparition du groupe dans le monde du showbiz. Et c'est ce qui a été salué au décès de Mark Hollis, le fait que d'un côté tu as des groupes qui font leur XIème tour d'adieu, et là tu as un gars qui est un musicien vraiment intègre jusqu'au bout, qui a dit que c'était la fin, qui a fait sa révérence et qui a vécu sa vie en retrait, loin de tout ça. Mais j'ai beaucoup aimé la description de ton... de l'album Spirit of Eden et Laughing Talk, ça a vraiment été
Laughing Stock.
Pardon,
Laughing Stock.
Ouais, oui, pardon. Ces deux albums que j'ai toujours du mal à poser des mots dessus, en fait. Que quand bien même il s'est brassé quand même beaucoup d'émotions. Et tu parlais de ballottement et de flottaison dans l'album, et je suis là d'accord. T'as vraiment ce côté où t'as ce truc un petit peu méditatif qui s'installe, et que d'un seul coup t'as l'impression que le ballottement s'accentue, qu'il va y avoir un petit envolé, une petite folie du groupe qui va d'un seul coup choisir conjointement quand faire péter un peu ce qu'ils étaient en train de développer, avant de retomber, ce qui est effectivement un peu le blueprint qui va donner, je pense, le crescendo post-rock. Et avec toute cette classe, ce côté avec des percussions très douces, cette multitude d'instruments, enfin, la clarinette qui, dès qu'elle arrive, franchement, ça me donne des frissons, quoi. Et pourtant, j'avais jamais vraiment identifié ce silence entre les notes de l'album, qui est pourtant si important, et le plus drôle, c'est que tu l'as dit, je l'ai dit à l'introduction de l'épisode. Donc en tout cas, merci encore pour ces mots très justes, et encore une fois, très 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 belle chronique pour rendre hommage à ce groupe important, qui est vraiment à saluer et à donner sa chance. Et bah écoutez, je vais me taire et je vais laisser la parole à Corentin sur Talk.
Thomas a pas mal devancé ma prise de notes dans sa chronique, donc ça va être compliqué de rebondir dessus. Je connaissais uniquement It's My Life de Talk. Ah. J'avais toujours entendu parler de ce revirement stylistique sur la fin de carrière, sans jamais m'y être intéressé. Et donc en commençant direct, enfin en le découvrant directement avec le dernier album, ça fait tout drôle. Je trouve qu'on ressent quand même la patte de Talk, même si on est sur deux approches qui ont absolument rien à voir. Et je l'ai trouvé très très mélancolique, cet album. Bah, le fait qu'il soit très dépouillé, tout ça, ça n'aide pas trop à y investir de la joie. Et c'est une très 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 belle façon de tirer sa révérence dans le silence. Et je dirais juste que la chanson After the Flood, c'est dans les veines. C'est juste dommage qu'il y ait cet horrible crissement. J'ai juste à grimacer, Cédric. Cet horrible crissement qui vient dans le milieu du morceau. Et il y a un autre morceau, j'ai pas retenu son titre. Un morceau qui finit très 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 brusquement.
Bah, c'est le morceau juste avant, c'est Session Day.
Session
en fait,
Day.
Voilà, c'est volontaire, okay. Il le coupe en plein milieu à la fin et t'enchaînes avec After the Flood.
Ok. C'est pas sympa, messieurs. J'étais en train de planer et d'un seul coup, paf, le mur, quoi. Et je finirai juste en disant. J'avais fait un jeu de mots à l'époque en disant. Talk, si tu baisses le son, ça fait murmure. C'est littéralement ce qu'ils ont fait en fin de carrière.
Merci beaucoup, Corentin. Bon, c'est vrai que je te vois grimacer depuis 5 minutes. Donc, écoute, vas-y, balance ton flow.
Comme sur les chroniques précédentes, j'ai encore un point commun avec la personne qui m'a précédé, c'est-à-dire que moi aussi je connaissais Talk Talk juste par ses gros titres radio-friendly, en l'occurrence moi c'était plus Such a Shame. Que pour,
qui est sur le même album.
Oui, voilà. Que. On peut pas dire que je l'apprécie, pour rester poli. Après, on m'avait dit, vas-y, Laughing Stock, c'est pas du tout la même chose. Alors, c'est pas faux. Malheureusement, ça veut pas dire que j'apprécie beaucoup plus. Je suis désolé. Après, le rapport au silence, il est clairement évident. C'est tout doux. Surtout, c'est très intimiste. Ce qui, quand tu connais le contexte d'enregistrement, fait totalement sens. Parce que de ce que j'ai lu, ils se sont enregistrés dans l'obscurité. Donc, forcément, ça se sent dans l'album. Qui sont enregistrés.
Faudrait que je vérifie pour Laughing Stock, mais ils sont sans doute, oui, c'est surtout sur Spirit of Eden que c'est connu. J'imagine
priori,
qu'ils
ont
refait le même
Laughing
procédé.
Stock, voilà.
Ouais, ce serait vraiment pas surprenant.
Donc, voilà, après, Mirman, j'ai pas grand chose à en dire. Bon, c'est pas trop mon. C'est pas mon style, mais pourquoi pas encore. Après, c'est après que ça se gâte, parce que notamment. Alors, c'est surtout sur Ascension Day et Newgrass que j'ai remarqué ça. C'est les cymbales qui sont beaucoup trop en avant et la basse qui est beaucoup trop absente. Ce qui, bon, voilà. Après, Corentin, donc si j'ai bien compris, t'aimes pas mal After the Flood. Moi, c'est le morceau qui m'a le plus fait criser. Parce que la snare. Sans atteindre les extrêmes de Saint Anger, elle est quand même vachement, elle me fait vachement crisper la caisse claire sur After the Flood. Et puis oui, évidemment le solo criard. j'ai failli rage quit sur le moment. Je me rappelle, enfin, je cite ce que j'ai écrit. Wesh, d'où tu penses au silence quand t'écoutes ça?
Salopard. Ouais,
des problèmes. Mais...
Voilà. Enfin, après, si vous appréciez, tant mieux. Moi, c'est un truc. Enfin, vraiment, ça m'a vraiment fait sortir du truc. Après, sur la fin de l'album, taper des Renee, j'arrive beaucoup plus, même si, comme Thomas a dit, tapette, il y a des petites clarinettes dissonantes qui, bon, je m'en serais bien passé, mais ça aide à l'ambiance. Donc je peux pas dire non, faut les virer. Ça participe pleinement au morceau, mais du coup, moi, ça me sort. Et du coup, c'est bien René qui conclut l'album.
Oui, ouais.
Et donc, déjà, c'est une très belle fin. Enfin, c'est un beau chant du cygne, comme tu dis. Parce que l'ambiance très feutrée, intimiste, très douce. C'est là, du coup, pour le coup, là, sur ce morceau-là, je vois vraiment le rapport au silence. Après, il y a vraiment cet aspect très. Je trouve l'album vraiment très sombre. Tu parlais de mélancolique, moi, c'est vraiment très. Enfin, presque négatif dans. On pourrait presque lui coller l'adjectif de négatif. Donc. Malheureusement, c'est pas un album que je peux encenser, hein. Mais je peux comprendre et je vois l'impact que ça a eu derrière, mais j'ai quand même du mal à me dire qu'un album auquel je trouve autant de défauts puisse à ce point réunir derrière lui, quoi. C'est un truc qui me fait franchement je comprends pas, quoi.
Mais bon. En fait, je pense que la compréhension de Salopard, j'aurais écouté l'album comme ça sans le contexte en connaissant juste Such a Shame avant et comme toi, j'aurais pu avoir le même ressenti sur cet album. Et vraiment, moi, ce qui m'a touché personnellement, c'est vraiment la progression de la carrière du groupe, vers quoi ils sont allés, et surtout que vraiment leur style était en parfait accord avec leur démarche et leur mode de se comporter en tant que groupe. Et vraiment, j'ai jamais retrouvé ça ailleurs. On va dire, voilà, cette idée que le silence, au-delà de la musique, en fait, se retranscrit aussi dans la démarche et dans la manière dont vit le groupe de manière publique, quoi. Qui m'a beaucoup touché, parce que surtout qu'après, en plus, Marc Ellis est mort malheureusement il y a déjà quelques années, mais complètement disparu du jour au lendemain, pas de news, rien du tout. Le mec, il vivait tranquille sa life en Angleterre, sa vie de famille, et puis c'est tout, et puis ça le dérangeait pas. Je trouvais ça très beau aussi dans cette approche. Après, c'est vrai que sur les petits détails de son, je peux comprendre que ce soit un peu dur à l'oreille, peut-être pas forcément facile d'accès au premier coup. Je pense que Spirit of Eden est un peu mieux, notamment parce que le mix de batterie est peut-être un peu plus dans ce qu'on a l'habitude d'entendre. Là, il y a une volonté notamment de mettre, hormis les snares, la batterie très en retrait dans les morceaux sur Lost in Stock, alors que sur Spirit of Eden, elle est plus présente. Mais voilà.
Et tu parlais de moment d'ambiance très sombre, Cédric. Bon, alors je peux l'entendre. Après, bon, dans ce cas, je sais pas si t'as déjà écouté l'autre album considéré comme fondateur du post-rock, à savoir Spider-Man de Slint.
Non.
Mais dans ce cas, je te dis, n'y va pas. Parce que là, vraiment, on est dans le...
Et pourtant, j'ai écouté des albums très sombres, mais c'est pas pareil.
Moi, je trouve plutôt que cet album, il est plutôt mélancolique. Alors vraiment, quand tu me dis un album méga sombre... Fantôme post-rock, moi le Spider-Man de Slint, mais c'est à s'en tirer une balle, mais pas pour la forme, hein. C'est vraiment. C'est un des rares albums où j'ai arrêté mon écoute au mieux parce que. C'est beaucoup trop pour
c'est
moi.
Bien, et donc ça te pose un genre quand même. C'est
ouais,
vachement marrant
ouais.
Le genre dont ça coule.
Yay yeah, t'inquiète, on s'amuse super bien. Et l'album sorti même ni que Slow Think Stock d'ailleurs. Léo, il ne reste plus que toi pour parler de cet album, alors donc je t'en prie, le micro est à toi.
Il y a une chose qui est assez rigolote, c'est que si j'avais pas proposé Tomorrow's Harvest, j'aurais proposé cet album-là.
Shotgun.
Des raisons... ouais. De quoi ?
Non, j'ai dit Shotgun first.
Ouais non, mais écoute, en plus c'est moi qui me suis mis en premier sur le truc. Mais... Bref, non, c'est compliqué pour moi d'en parler de cet album parce que c'est vraiment mon havre de paix. C'est The Disc avec Tomorrow's Harvest quand ça va encore moins bien, mais vraiment c'est ce disque vraiment où je trouve mon havre de paix, où quand je vais pas bien je me le mets et juste je chiale, putain, parce que putain c'est beau, c'est feutré, j'arrive pas à en parler. C'est un disque qui compte énormément pour moi, qui est très cher à mon cœur, et je me rappelle, Thomas montre le vinyle, je l'ai pas près de moi, mais j'ai le vinyle aussi chez moi, que j'écoute très souvent. Et je me rappelle avoir eu justement un premier contact avec cette pochette, vraiment, que je trouve magnifique, qui dépeint, mais magnifiquement bien, en fait, toute la musique de cet album. Toute cette nature un peu terne, mais avec des oiseaux, il y a quelque chose de très, très beau là-dedans. J'ai vraiment une obsession, en fait, pour cet album. Il y a des moments où j'écoutais que ça. Genre, j'ai des journées où je le mettais en boucle. Parce que j'avais besoin de ça, j'avais besoin de me plonger dedans. Et même, je me rappelle, la première fois que je l'ai écouté, j'étais tellement bouleversé. Quand ça s'est terminé, j'ai fondu en larmes, parce que, et encore aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai jamais ressenti une telle chose en musique. Et alors peut-être que c'était le fait que ça soit mon tout premier album de post-rock, donc oui, je suis pas allé sur le truc le plus simple, mais je pense que ça doit beaucoup jouer là-dedans, parce que c'était le post-rock, c'était cet album-là, et après j'avais enchaîné par Live Your Skinny Fist, like Andreas to Heaven, de Godspeed You Black Emperor.
YOLO!
C'est encore un autre gros morceau, on va pas se mentir.
Ah, les albums faciles d'accès, oui, bien sûr. Hein,
non, mais
court,
étonnamment, et après, le post-rock, c'est devenu un de mes genres préférés, donc étonnamment, je dois être un peu siphonné du bulbe, comme on dit. Mais...
Hashtag je chiale putain.
Mais voilà, c'est vraiment ça, et c'est vraiment ce disque où je me sens mais perdu dans la nature vraiment de cette pochette, avec vraiment ces oiseaux qui volent, moi qui souris comme un gogol. Voilà, c'est un album, je pense vraiment, en faisant mes notes, je me suis dit, en fait, c'est un album qui est métaphorique. T'as pas vraiment de repères, et tu peux t'imaginer plein de choses. C'est peut-être l'un des albums les plus imagés que j'ai écouté dans ma vie. Et oui, il peut y avoir des moments, genre Solar Scène ou autre, qui peut être un peu dérangeant, mais moi, cette clarinette, je l'aime d'amour.
Un peu.
Genre, de quoi ?
Un peu. Un peu dérangeant.
Oui. Mais le bruit, c'est la musique à mes yeux, d'accord ? Enfin, à mes oreilles plutôt.
C'est ça, mais il y a ça. Et moi, c'est surtout, j'ai un gros crush pour l'enchaînement de fin Newgrass, Rooney, qui sont mes sublimes, vraiment. Genre, les 9 minutes de Newgrass, moi, ça passe comme pas possible. Et c'est... voilà, je peux en parler durant des heures, je vais m'arrêter là, mais vraiment, je vous recommande chaudement cet album, mais il faut se mouiller un peu la nuque parce que il n'y a pas de repère. C'est vraiment, on sait pas où on est, mais on y est et on y est bien. Voilà, c'est, je conclurai là-dessus.
C'est une très belle conclusion.
C'est beau. C'est beau. Je pense qu'on peut effectivement terminer là-dessus après tous ces beaux mots sur Tall Talk, même si certains sont un petit peu nuancés. Je vous remercie, messieurs, pour votre participation à cette chronique et pour à l'ensemble. On va pouvoir aller tranquillement vers la fin de notre escale. Je tenais, auditrices et auditeurs, à vous remercier pour votre écoute. Pour rappeler que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de streaming
considéré comme une plateforme de streaming. Hein, allez, vas-y, let's go. Hein.
oui, etc. Oui. Et vous pouvez effectivement aller, donc je vous incite à nous retrouver sur smart.fr pour retrouver, écouter en direct donc les épisodes de l'Escale, mais également lire tout notre travail écrit. N'hésitez pas à mettre également des notations si vous appréciez le podcast, parce que bon, bah, ça aide toujours pour les référencements, n'est-ce pas ? Parce que bon, on aimerait beaucoup avoir des retours déjà sur le travail que l'on fournit, parce qu'on le veut le plus qualitatif possible. Mais bon, pour ça, les notes, c'est bien, mais les commentaires, c'est encore mieux. Si jamais vous avez aimé des chroniques de cet épisode, si vous avez découvert, si vous êtes en désaccord, si vous voulez faire remonter des défauts, si vous voulez proposer ce que vous auriez choisi comme album pour le silence, on serait ravis d'avoir votre perception de tout ça. La musique, c'est un partage, un peu comme l'information et le travail passionné, donc n'hésitez pas à rejoindre la cadence là-dessus. Et sur ces mots, je vais saluer les membres de l'équipe. Merci encore pour ta participation, Cédric.
Voilà.
Merci Cédric pour cette intervention.
C'était encore un bon exemple pour dire que parfois il vaut mieux se taire.
Non, mais j'ai fait une improvisation pour la Flingstock. Plus sérieusement, merci à vous pour cet escale. J'ai découvert de très beaux albums, d'autres un peu moins, hein, mais ce fut tout de même plaisant.
Je suis d'accord. Merci pour ta participation, Léo.
Bah écoutez, merci à toi de leur présenter, merci à vous pour cet épisode. C'était très sympa, enregistré comme d'habitude, et j'espère que vous, auditeurs et auditrices, vous avez apprécié.
Et fait plein de belles découvertes. Merci encore à toi, Corentin.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode, et merci à mes chers compatriotes pour ces belles paroles et pour ces jolies découvertes d'albums.
T'imagines, il y aurait eu un Belge dans l'équipe, t'aurais eu l'air con, là. Hein.
Ah ah ! Bah, il est du Nord, c'est presque ça.
Ah non, c'est un expat, mais c'est tout.
On a eu un Belge, enfin... hein.
Et enfin, merci beaucoup pour ta participation et ta présence, Thomas.
Oui, bonjour. Toujours un plaisir. On se voit dans 6 mois, un minimum. Hein. Vous connaissez ma cadence, hein, maintenant. On verra. Hein. Mais très, très heureux d'avoir participé à cet enregistrement-ci avec vraiment une belle sélection.
En tout cas, moi, j'en remets une couche. Je vous remercie de votre écoute, auditrices et auditeurs. Je vous remercie encore, messieurs, pour votre participation et le fait que personne n'évoquait John Cage 433.
Bravo !
C'est
bravo,
un miracle.
Bravo, franchement.
Bravo à vous. Bravo. Je vous fais à tous et à toutes un bisou. Vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et je vous donne rendez-vous pour de prochaines escales, pour nos prochains échanges avec l'équipe. Prenez soin de vous et à la prochaine.
Salut.
Salut.
Ouais.
Au revoir.
Mais trêve de publicité, je vous laisse à votre première chronique sur le silence, avec celle de Cédric.
Eh oui. Putain, j'aurais pas dû commencer comme ça.
Eh oui, c'est moi, c'est Cédric. Je vais présenter mon épisode, ma chronique.
Eh oui. Eh oui, Jamy. Allez, c'est ça le silence.
Énorme.
Est-ce que tu peux me relancer, Paul, s'il te plaît, pour que...